Je vais terminer aujourd'hui la série que j'ai entrepris il y a déjà pas mal de temps, hein, sur les deux épîtres aux Thessaloniciens. Donc on est dans la deuxième épître et on va la finir, si Dieu le veut. Donc vous prenez dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 13. Vous vous souvenez peut-être que juste avant, Paul avait parlé d'un enseignement sur les choses de la fin, concernant notamment l'homme de péché, l'Antichrist. Et là donc il écrit au verset 13, « Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par sa bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Finalement, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main à moi, Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est bien. Continue. Tu peux encore mieux faire. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ce type de phrase vous rappelle, je pense, on l'a tous vu sous la plume de nos professeurs à la fin des bulletins scolaires, soit nos bulletins à nous, soit ceux de nos enfants, pour nous encourager à progresser. L'analogie avec l'appréciation que l'apôtre Paul porte sur l'église de Thessalonique est un peu triviale, mais c'est bien un peu ce qu'il dit à cette église du nord de la Macédoine, suite aux nouvelles qu'ils viennent recevoir d'eux. Dans le paragraphe que nous venons de lire, Paul approche de sa conclusion. Il redit, en y associant ses co-rédacteurs Sylvain et Timothée, combien il est heureux de remercier Dieu au sujet de ses frères et sœurs de Thessalonique. Cette joie est motivée par le constat qu'il fait que Dieu les a choisis pour qu'ils soient les prémices de l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit dans cette région du monde. Choisis pour être les premiers à être sauvés, dans la traduction du semeur. Le terme utilisé dans l'original grec signifie littéralement les premiers fruits. Paul utilise ce même terme dans certaines de ses salutations à d'autres églises. Par exemple, à l'église de Rome. En Romains 16, verset 5, on peut lire « Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. » Vous savez que à l'église de Corinthe, il écrit un peu la même chose. 1 Corinthiens 16, verset 15. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de l'Achaïe. L'Achaïe, c'est le sud de la Grèce. Et qu'elle s'est consacrée au service des saints. L'apôtre Jean utilise ce même terme dans son Apocalypse, au chapitre 14, verset 4. Il parle de 144 000 personnes qui se tiennent sur le mont Sion avec l'agneau et qui portent le nom de son Père sur leur front, dont il dit « Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. » Allusion aux premiers fruits de leur récolte qui était offert à Dieu par les Israélites dans l'Ancienne Alliance. De la même manière, Paul voit dans ces chrétiens de Thessalonique les premiers fruits d'une grande récolte. C'est bien lui et ses compagnons qui ont semé, mais Dieu a fait pousser la semence de l'Évangile dans les cœurs, et maintenant, Paul et ses compagnons les offrent en quelque sorte à Dieu comme les prémices, les premiers fruits d'une immense et glorieuse récolte dans cette région du monde. Et c'est ainsi que Paul constate, vous l'avez noté, qu'ils ont été élus. Ce ne sont certainement pas tous les citoyens de Thessalonique qui se sont convertis lors de la prédication de l'Évangile, mais ce sont ceux que Dieu a appelés dans cette cité. C'est un enseignement pour nous. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous ne savons pas qui va accepter notre message et se décider pour Christ, mais Dieu, lui, le sait. Pendant son premier séjour à Corinthe, Paul a été en butte à une forte opposition. On l'a lu dans notre étude sur le livre des Actes. On lit par exemple en Actes 18, verset 9, « Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il, parle et ne te tais pas, je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Parole étonnante. Avant même que l'Évangile ait été prêché à Corinthe, Dieu distingue dans cette foule païenne un peuple qui lui appartient, peuple qu'il va appeler par son serviteur Paul et sceller ensuite par l'Esprit Saint. Ce salut est le résultat de l'action de l'Esprit Saint qui les a purifiés par le moyen de leur foi en la vérité, lisons-nous à la fin du verset 13. Tout pécheur qui se tourne vers Dieu, qui se convertit, est définitivement purifié de la souillure qui caractérisait sa vie passée parce qu'il est une nouvelle création. On peut lire en 2 Corinthiens 5, 17 « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. » La meilleure morale humaine est incapable de réaliser une telle purification. Et nous lisons « par le moyen de la foi en la vérité », c'est ce qu'a écrit Paul. À ce sujet, je vous recommande la lecture d'un livre qui vient d'être publié par deux auteurs chrétiens, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis, qui ont travaillé pendant 3 ans avec des scientifiques de haut niveau pour sa rédaction. Le titre de ce livre, je l'avais mis sur une diapo, mais bon, j'ai oublié. Le titre de ce livre, c'est « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution ». Un assez gros pavé de 577 pages, tout à fait passionnant. Je crois que David est en train de le lire en ce moment. Hein, tu confirmes? Il est 24 € sur Amazon et on le trouve à peu près au même prix en librairie. Hein. Ces auteurs démontrent avec une foule de preuves et de citations d'hommes de science que les données les plus récentes, découvertes en astrophysique qu'en biologie corroborent les données bibliques et en tout cas ne sont pas incompatibles avec celles-ci, contrairement à l'opinion la plus répandue parmi les savants jusqu'au milieu du XXe siècle. Certes, nous n'avons pas besoin des données scientifiques pour savoir que la parole de Dieu est sans erreur. Mais il est rassurant de voir que la révélation de Dieu par les choses créées corrobore sa révélation écrite, les Saintes Écritures. Je veux dire que la création, le monde dans lequel nous vivons, est une forme de révélation de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse incomparable. Et on pense tout de suite à Romains 1, versets 19 et 20. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, les hommes en général. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres lorsqu'on y réfléchit. Ces deux formes de révélation nous sont intelligibles. Et moi, ça me convient bien. Dieu est cohérent. Il n'y a aucune incompatibilité entre ces deux formes de révélation. Seul bémol au sujet de ce livre, je vous le signale quand même, parce que peut-être que certains d'entre vous vont l'acheter, il y a un chapitre sur le prétendu miracle de Fatima. Peut-être pas entendu parler de ce truc, qui montre que ces auteurs ne connaissent pas bien les données bibliques concernant la capacité de Satan à réaliser des prodiges afin de tromper les hommes, comme on l'a vu au chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. On a bien vu que l'Antichrist est parfaitement capable de faire des prodiges pour tenter de séduire même les élus. Et Paul, donc, dans sa lettre, apporte un élément étonnant à la fin du verset 14. « Il vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans son épître aux Éphésiens, Paul nous exhorte à célébrer la gloire et de la grâce de Dieu. Il dit même que nous avons été choisis de toute éternité pour cette célébration. Dans son épître aux Colossiens, il va encore plus loin. En Colossiens 1, verset 27, il écrit « Car Dieu a voulu faire connaître aux membres de son peuple saint quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. » En d'autres termes, nous participons par pure grâce à la gloire de Christ parce que nous sommes un avec lui pour l'éternité, selon la demande que Jésus a faite à son Père en Jean 17. Que je vous rappelle, « Je te demande, dit Jésus, qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Un peu avant, Jésus avait dit, en parlant à ses disciples, « Ma gloire rayonne en eux. » Jean 17, deuxième partie du verset 10. Paul exhorte ensuite ses chers Thessaloniciens à demeurer fermes quant aux enseignements qu'ils ont reçus de l'équipe apostolique. Il fait allusion là à des enseignements erronés qui se sont glissés parmi eux, concernant particulièrement les choses de la fin, les événements de la fin des temps. Deux questions, on l'a vu, les taraudaient. Nos morts ont-ils manqué l'enlèvement auprès du Seigneur ? C'était 1 Thessaloniciens 4. Le jour du jugement est-il déjà arrivé ? 2 Thessaloniciens 2. Les persécutions qu'ils enduraient tant de la part des Juifs de leur ville que de leurs concitoyens païens avaient pu ébranler leur foi sur ces deux sujets. L'apôtre Paul avait tenu à les rassurer dans ces deux épîtres qu'il leur a adressées. C'est grâce, d'ailleurs, aux interrogations des Thessaloniciens qu'un enseignement des plus précieux concernant les choses de la fin nous a été ainsi conservé. Dans le chapitre 3 de cette deuxième épître, dans nos Bibles, mais bien sûr dans la lettre de Paul, il n'y avait pas de chapitre, individualisé, Paul revient sur un principe d'éthique chrétienne auquel il tient beaucoup. Chacun doit travailler pour assurer sa propre subsistance matérielle. Là aussi, il semble qu'une compréhension erronée des enseignements sur les choses de la fin, et peut-être aussi, il faut bien le dire, une certaine paresse, avait incité certains des chrétiens de Thessalonique à se reposer sur la solidarité fraternelle pour subvenir à leurs besoins matériels. En quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler trivialement des pique-assiettes chrétiens. Paul est sévère à leur égard. Il invite la communauté à rompre les relations fraternelles avec ceux qui tombent dans ce travers, tout en avertissant comme des frères ceux qui se laissent aller à cette dérive. Pour finir, il redit son assurance que ses chers Thessaloniciens font ce qu'il leur recommande et qu'ils continueront à le faire. Cette assurance lui vient de sa foi en la fidélité du Seigneur, que nous avons chanté d'ailleurs. Il vous rendra fort et il vous gardera du diable. Il leur demande aussi de prier pour l'équipe apostolique, les missionnaires apostoliques, afin que lui et ses compagnons soient délivrés des hommes insensés et méchants. On voit là l'humilité qui caractérise un homme de Dieu. Il ressent vivement le besoin des prières de ces païens qui étaient il y a peu des idolâtres, mais qui maintenant sont de chers frères et sœurs en Christ. Pour en revenir à mon allusion avec l'appréciation finale que nous trouvions dans nos bulletins de notes et de ceux de nos enfants, nous avons vu toute la reconnaissance que Paul fait monter dans ses prières à Dieu pour le comportement des frères et sœurs de cette Église. Trois qualités essentielles les caractérisent et leur valent d'excellentes notes. Leur zèle pour l'annonce de l'Évangile autour d'eux. Leur endurance dans la persécution qu'ils vivent. L'amour qu'ils vivent tant entre eux que celui qu'ils témoignent au dehors pour leurs concitoyens, désirant ardemment qu'ils se convertissent au Dieu vivant et vrai. Mais aussi, quelques notes moins bonnes, traduisant une mauvaise compréhension ou une mauvaise mémorisation de certaines leçons concernant la moralité sexuelle, il y a un paragraphe qui en parle, la paresse et une conception erronée des choses de la fin. Et enfin, de bulletin de notes, continuez comme vous le faites déjà, mais vous pouvez faire encore mieux.